25 juin. Quelquefois, je me méprise. Pourquoi les autres ne me mépriseraient-ils pas? Je suis incapable de nobles élans. Je crains de paraître ridicule à moi-même. Un autre, à ma place, aurait proposé à la princesse son cœur et sa fortune. Mais le mot de mariage a sur moi une puissance magique, comme s'il m'était impossible d'aimer ardemment une femme dès que je puis penser que je devrais l'épouser. Alors, adieu l'amour, mon cœur se transforme en rocher et rien ne peut le rallumer. Je suis prêt à tous les sacrifices, excepté celui-là. 20 fois dans ma vie, j'ai confié mon honneur à une carte, mais je ne vendrai jamais ma liberté. Pourquoi en fais-je tant de cas? Que vaut-elle pour moi? Où m'en suis-je servi et qu'en puis-je attendre dans l'avenir? Vraiment absolument rien. C'est une maladie innée que ce préjugé inexplicable. Il y a bien des hommes qui craignent sans savoir pourquoi les araignées, les cafards, les souris. Et il faut l'avouer. Lorsque j'étais enfant, une vieille femme prédit mon avenir à ma mère et lui annonça que je mourrais de la main d'une perfide épouse. Cela me toucha profondément et, dans mon âme, naquit un dégoût insurmontable pour le mariage. Cependant, qui me dit que cette prédiction se réalisera? Dans tous les cas, je tâcherai que ce soit le plus tard possible. « 26 juin. Hier est arrivé ici l'escamoteur Apfelbaum. À la porte de l'hôtel, j'ai trouvé une longue affiche informant respectueusement le public que le susnommé, merveilleux escamoteur, acrobate, chimiste, opticien, aurait l'honneur de donner une splendide représentation le jour même à 8 heures du soir dans le salon des nobles réunions, c'est-à-dire à l'hôtel. Les billets sont à 2,5 roubles. Tout le monde s'empresse d'aller voir le merveilleux escamoteur. La princesse Ligovska, quoique sa fille soit malade, a pris un billet pour elle. Aujourd'hui même, après dîner, j'ai passé auprès des fenêtres de Viera. Elle était assise à son balcon. À mes pieds est venu tomber un pli. Ce soir, à 10 heures, viens chez moi par le grand escalier. Mon mari est parti pour Pitigorsk et ne revient que demain matin. Il n'y aura à la maison ni gens ni femmes de chambre. Je leur ai donné des billets à tous, ainsi qu'aux gens de la princesse. Je t'attends, ne manque pas. Ah, ai-je pensé, voilà donc enfin ce que je désirais. À 8 heures, je suis allé voir l'escamoteur. Le public ne s'est réuni que vers 9 heures. Le spectacle a commencé. Aux dernières rangées de chaises, j'ai vu les laquais et les femmes de chambre de Viera et des princesses. Tous étaient bien là. Grouchnitsky était assis au premier rang avec son lorgnon. L'escamoteur lui demandait, à chaque fois qu'il en avait besoin, sa montre, sa bague, etc. Grouchnitsky ne me salue plus depuis quelque temps, et aujourd'hui il m'a même regardé 2 fois avec insolence. Tout cela lui sera rappelé lorsque nous devrons compter ensemble. Vers 10 heures, je me suis levé et suis sorti dehors. Il faisait noir à perdre la vue. Des nuages épais et froids s'étendaient sur les sommets des montagnes environnantes. À peine si de temps à autre une brise mourante agitait les peupliers qui entourent l'hôtel. La foule se pressait aux fenêtres. J'ai descendu la colline et en atteignant la porte, j'ai pressé le pas. Il m'a semblé soudain que quelqu'un marchait derrière moi. Je me suis arrêté et j'ai regardé. Dans l'obscurité, il était impossible de rien distinguer. Seulement, par prudence, j'ai fait, en me promenant, le tour de la maison. En passant près des fenêtres de la jeune princesse, j'ai entendu de nouveau des pas derrière moi. Un homme, enveloppé dans un manteau, a passé rapidement à mes côtés. Cela m'a inquiété. Mais je me suis approché furtivement du perron et, avec précipitation, j'ai gravi l'escalier au milieu des ténèbres. La porte s'est ouverte Une petite main a saisi ma main. « Personne ne t'a vu ?» m'a dit doucement Viera en se serrant vers moi. « Personne. Crois-tu maintenant que je t'aime ? Oh, j'ai longtemps hésité, j'ai souffert longtemps. Tu fais de moi tout ce que tu veux. » Son cœur battait bien fort. Ses mains étaient froides comme de la glace. Les reproches jaloux et les plaintes ont commencé. Elle a exigé que je lui avoue tout. Elle m'a dit qu'elle supporterait ma trahison avec résignation, parce qu'elle n'a qu'un désir, c'est de me voir heureux. Je n'ai point cru le moins du monde à cela, mais je l'ai tranquillisée par mes serments, mes promesses, etc. « Ainsi, tu n'épouseras pas Marie ? Tu ne l'aimes pas ? Mais elle le croit. Sais-tu qu'elle est folle de toi, la pauvre enfant ?» Vers 2 heures après minuit, j'ai ouvert la fenêtre, et à l'aide de 2 châles réunis, j'ai pu, en m'accrochant à une colonne, descendre du balcon en bas. Il y avait encore de la lumière chez la jeune princesse. Quelque chose m'a poussé vers cette fenêtre. Le rideau n'était pas parfaitement tiré, et j'ai pu jeter un regard curieux dans l'intérieur de la chambre. Marie était assise sur son lit, les mains croisées sur ses genoux. Ses longs cheveux étaient ramassés sous un joli bonnet orné de dentelles. Un grand foulard ponceau couvrait ses blanches épaules et ses petits pieds se cachaient dans des pantoufles persanes toutes bigarrées. Elle était assise et immobile, la tête penchée sur sa poitrine. Devant elle, sur une table, un livre était ouvert, mais ses yeux fixés pleins d'une tristesse inexprimable semblait parcourir pour la 100e fois la même page, tant sa pensée était loin de là. À ce moment, quelque chose a remué derrière un buisson. J'ai sauté du balcon sur le gazon, une main invisible s'est abattue sur mon épaule. « Ah ! » dit une voix brutale, « je le tiens. Tu iras chez ma princesse la nuit. »« Serre le plus fort !» a crié une autre voix qui partait d'un coin. C'était Grouchninski, le capitaine de dragons. J'ai envoyé un coup de poing sur la tête de ce dernier, d'un croc en jambe, j'ai étendu l'autre à terre et me suis élancé au milieu des massifs. Tous les sentiers du jardin qui couvrent la pente devant nos demeures m'étaient bien connus. « Au voleur, au secours » ont-ils crié. Un coup de feu a retenti. Une bourre fumante est venue tomber presque à mes pieds. En un instant, je suis arrivé dans ma chambre, me suis déshabillé et couché. Mon domestique venait à peine de refermer la porte à clé que Grouchninski et le capitaine se sont mis à frapper. « Petchorin, dormez-vous ? Êtes-vous là ? » m'a crié le capitaine. « Je dors !» ai-je répondu en grommelant. « Levez-vous ! Il y a des voleurs, circassiens !»« Je suis enrhumé !» leur ai-je répondu, « et je crains de me refroidir. » Ils sont partis. Je regrette de leur avoir répondu, car ils m'auraient cherché encore 1 heure dans le jardin. Cependant, l'alarme s'est répandue et un cosaque est sorti au galop de la forteresse. Tout était en mouvement. On s'est mis à chercher les circassiens dans tous les buissons. Il est bien entendu que l'on n'a rien trouvé. Mais beaucoup sont restés convaincus que si la garnison avait montré plus d'entrain et de célérité, au moins 10 voleurs seraient restés sur place. 27 juin. Ce matin, au puits, il n'était question que de l'attaque nocturne des circassiens. Après avoir vidé le nombre de verres d'eau de narzane qui m'est ordonné, et en passant pour la 10e fois sous la longue allée de tilleuls, j'ai rencontré le mari de Viera qui venait d'arriver de Piatigorsk. Il m'a pris par le bras et nous sommes allés déjeuner au restaurant. Il était sérieusement inquiet pour sa femme. « Comme elle a été effrayée cette nuit, » m'a-t-il dit, « et il a fallu que cela arrivât juste pendant mon absence. » Nous nous sommes assis pour déjeuner près de la porte, et de là j'avais vu sur une pièce où se trouvaient 10 jeunes gens, et parmi eux Grouchninski. Pour la 2e fois, le hasard m'a donné l'occasion d'entendre une conversation qui doit décider de son sort. Il ne m'a pas vu et par conséquent je ne puis le soupçonner d'avoir agi avec intention, mais cela ne fait qu'augmenter sa faute à mes yeux. « Était-ce bien réellement des circassiens ? » a dit quelqu'un. « Les a-t-on vus ? » Je vous raconterai toute la vérité, a répondu Grushnitsky. Seulement, je vous en prie, ne me trahissez point. Voici comment la chose s'est passée. Hier, un homme que je ne vous nommerai pas est venu chez moi et m'a raconté qu'il avait vu quelqu'un, à 10 heures du soir, se glisser dans la maison des dames Ligovska. Il faut vous faire observer que la princesse mère était ici et que sa fille était restée à la maison. Alors je suis allé avec lui me placer sous la fenêtre afin de guetter l'heureux mortel. J'avoue que j'étais effrayé, quoique mon convive fût occupé de son déjeuner. Il aurait pu entendre des choses assez désagréables pour lui, si Grushnitsky avait su réellement la vérité. Mais aveuglé par la jalousie, il ne l'avait pas soupçonné un instant.
« Ainsi donc, a continué Grushnitsky, nous étions partis avec nos fusils chargés à poudre seulement, afin de l'effrayer un peu. Nous attendons jusqu'à 2 heures dans le jardin. Enfin, un homme s'est montré, venant Dieu sait d'où. Ce n'est pas de la fenêtre dans tous les cas, car elle ne s'est pas ouverte, et il a dû sortir par la porte vitrée qui est derrière la colonne. Enfin, je vous l'assure, nous avons vu sortir quelqu'un sur le balcon. Quelle jeune fille ! Voilà bien les jeunes personnes de Moscou. Après cela, qui croire ? Nous avons voulu le prendre, mais il s'est arraché de nos bras et a filé comme un lièvre entre les massifs. C'est alors que j'ai tiré sur lui. »
Autour de Grushnitsky s'est élevé un murmure d'incrédulité.
« Vous ne le croyez pas ? » a-t-il continué. « Je vous donne ma parole d'honneur la plus sacrée que tout cela n'est que l'exacte vérité, et pour preuve, si vous le permettez, je vous nommerai le monsieur. »
« Nommez-le, nommez-le ! Qui est-ce » s'est-on écrié de tous côtés.
« Petchorin !» a répondu Grushnitsky.
À ce moment, il a levé les yeux. J'étais sur le pas de la porte en face de lui. Il a rougi très fort. Je me suis approché de lui et lui ai dit lentement et distinctement ceci. « Je regrette beaucoup d'être entré après que vous ayez eu donné votre parole d'honneur. » pour affirmer la plus infâme des calomnies. Ma présence vous eût peut-être préservé d'une lâcheté de plus. »
Grushnitsky s'est levé de sa place et a voulu s'emporter. « Je vous en prie, » ai-je continué sur le même ton, « veuillez rétracter vos paroles. Vous savez très bien que tout cela n'est qu'une pure invention, et je ne crois pas que l'indifférence d'une femme pour vos brillantes qualités mérite une telle vengeance. Réfléchissez-y bien. En maintenant votre opinion, vous perdrez le titre d'honnête homme et vous risquerez votre vie. »
Grushnitsky était debout devant moi, les yeux baissés et dans une agitation extrême. Mais la lutte entre la conscience et l'amour-propre n'a pas été longue. Le capitaine de dragons, assis à côté de lui, l'a touché au coude, il a frissonné et m'a répondu rapidement sans lever les yeux.
« Mon cher monsieur, lorsque je dis quelque chose, c'est que je le pense et suis prêt à le répéter. Je ne crains point vos menaces et suis préparé à tout. »
« Dernièrement, vous me l'avez déjà prouvé, » lui ai-je répondu avec froideur, et prenant le capitaine de dragon par le bras, je suis sorti de la salle.
« Que désirez-vous ? » m'a dit le capitaine.
« Vous êtes l'ami de Grushnitsky, et probablement vous serez son second. » Le capitaine s'est incliné très sérieusement.
Vous avez deviné, m'a-t-il répondu. J'ai promis d'être son second parce que l'injure que vous lui avez adressée me concerne aussi. J'étais avec lui la nuit passée, a-t-il ajouté en redressant sa taille un peu courbée.
Ah, c'est cela. Je vous ai frappé si maladroitement à la tête. Il a jauni, bleui, et une fureur cachée s'est répandue sur son visage. « J'aurai l'honneur de vous envoyer aujourd'hui mon second, » ai-je ajouté en le saluant très poliment et ayant l'air de ne pas remarquer sa fureur. Sur la porte du restaurant, j'ai retrouvé le mari de Viera. Il m'a semblé qu'il m'avait attendu. Il m'a pris la main avec un sentiment presque enthousiaste.
« Noble jeune homme, » m'a-t-il dit avec des larmes dans les yeux, « j'ai tout entendu. Quel homme détestable, sans cœur !» « Accueillez-les après cela dans une maison comme il faut. Grâce à Dieu, je n'ai pas de fille, mais elle vous récompensera, celle pour qui vous risquez votre vie.
Soyez sûr de ma discrétion tant qu'il le faudra, a-t-il ajouté. J'ai été jeune moi-même et j'ai servi dans l'armée. Je sais que je n'ai pas à me mêler de cette affaire. Adieu.
Le malheureux. Il se réjouit de ce qu'il n'a pas de fille. Je suis allé droit chez Werner. Je l'ai trouvé chez lui et lui ai tout raconté. Mes relations avec Viera et avec la jeune princesse, et aussi la conversation qui, par hasard, m'avait appris l'intention de ces messieurs de me tourner en ridicule en nous faisant tirer l'un sur l'autre avec des cartouches sans balles. Mais à présent, la chose a dépassé les limites de la plaisanterie, et sûrement ils ne s'attendaient pas à ce dénouement. Le docteur a consenti à être mon second. Je lui ai donné quelques instructions sur les conditions du duel. Il devra presser les choses afin qu'elles restent aussi secrètes que possible, car si je suis prêt à affronter la mort, je suis aussi peu disposé à nuire à mon avenir dans ce monde. Après cela, je suis rentré chez moi. Au bout d'une heure, le docteur est revenu de sa mission.
« C'est tout un complot contre vous, » m'a-t-il dit. « J'ai trouvé chez Grouchnitsky le capitaine de dragon et un autre monsieur dont je ne connais pas la famille. » Je m'étais arrêté un instant dans l'antichambre pour ôter mes socques et j'ai entendu à l'intérieur un grand bruit. On se disputait.
« Non, je ne consentirai point à cela, » disait Grouchnitsky. « Il m'a insulté en public et c'est tout autre chose. »«
Quelle affaire pour toi ?» lui a répondu le capitaine. « Je prends tout sur moi. J'ai été second dans 5 duels et je sais comment tout cela s'arrange. J'ai tout prévu. Je t'en prie, laisse-moi faire. » « Ce n'est pas un mal que de l'effrayer un peu. Et du reste, pourquoi s'exposer à un danger quand on peut l'éviter ?»
Sur cela, je suis entré et soudain tous se sont tus. Nos explications ont duré assez longtemps. Enfin, nous avons arrangé les choses de la manière suivante. À 5 verstes d'ici se trouve une gorge impraticable. Ils s'y rendent demain à 4 heures du matin et nous partirons une demi-heure après eux. Vous ferez feu à 6 pas. Grouchnitsky l'a demandé lui-même. S'il arrive un malheur, on le mettra sur le compte des circassiens. Maintenant, voici quelques soupçons que j'ai. Les témoins ont modifié probablement leur premier plan et ont désiré qu'on ne chargeât à balle que le pistolet de Grouchnitsky. Cela me paraît assez semblable à un assassinat. Mais en temps de guerre, et particulièrement en Asie, les ruses sont permises. Seulement Grouchnitsky m'a paru plus généreux que ses compagnons. Qu'en pensez-vous? Devons-nous leur faire savoir que nous les avons devinés?
Non, pour rien au monde, docteur. Soyez tranquille, je ne leur céderai pas.
Que voulez-vous donc faire?
C'est mon secret.
Réfléchissez-y. Ne vous laissez pas prendre à ce guet-apens. C'est à 6 pas.
Docteur, « je vous attends demain à 4 heures. Les chevaux seront prêts. Adieu. » Je suis resté jusqu'au soir assis chez moi et enfermé dans ma chambre. Un domestique est venu m'inviter de la part de la princesse. Je lui ai ordonné de dire que j'étais malade.